Here we go with the main event of the evening. Let's get ready to rumble!
Vite, paf, droite, gauche, droite. Sur les ondes pour mon bla bla bla. On y croit, naturopathie. Lymphe de Rosemont, Arturo Garci. On va jouer, carte sur table. J'en pense quoi du combat de Jean-Pascal? On va passer pro, boxe et podcast. Laurent Sicot parler, bienvenue sur le podcast.
En direct d'un 2,5 de Rosemont, Montréal. 2,5 semi-meublé. Mais pas parce que mes propriétaires l'ont semi-meublé. Là, parce que moi, je me suis semi-meublé moi-même. Il serait peut-être temps que je décore un peu cet appartement-là. Mais bref, c'est un podcast ici. C'est pas une émission de décoration. En direct de ton podcast préféré, Rosemont, Montréal, cette semaine. Essayer de m'installer comme il faut. Je suis assis tout croche sur ma chaise. Cette semaine, je suis une journée en retard parce que j'ai été pris un peu par surprise. Dimanche, il y avait de l'overtime au travail. Fait que là, je dis oui, je vais faire l'overtime. Il n'y a pas de problème. Là, je ne sais pas ce qui est arrivé. J'arrive au travail, je me mets à travailler. T'sais, là, je travaille. Là, ils me demandent de faire 12 heures. Là, j'en fais 10 et je sais pas ce que j'avais. Je me sentais un peu comme si au lieu d'avoir pris l'autobus, elle m'avait passé dessus. T'sais. Et j'étais là, entre la vie et la mort. Fait que là, je rentre chez nous tranquille. J'écoute la coupe Grey. Félicitations aux Alouettes. Puis après ça... Et je me dis, est-ce que je fais mon podcast ou je me couche? Puis je me suis couché, j'étais brûlé. Donc, c'est ça. Je suis allé me coucher. Sinon, dans ma vie personnelle, j'ai décidé de boucler la boucle. Ça fait 6 mois que j'ai pas gamblé. Demain, ça va être la fin de ma thérapie en 12 semaines à la maison Jean Lapointe. Mes finances personnelles sont redressées. Je ne joue plus. Je suis pas mal beaucoup sorti ça de ma tête. J'ai plus les réflexes de penser à ça tout le temps. Donc, je boucle la boucle. Je joue plus, mais je vais arrêter d'en parler. T'sais, je ne parlerai pas de ça tout le temps. Je vais arrêter de toujours me dire « Ah, ça fait tel nombre de jours » ou « Ah, tu joues plus » ou « Ah, Canadien favori ». Je vais essayer de juste... passer à autre chose. J'aimerais remercier tous les gens qui m'ont supporté. J'ai déjà fait un post. Beaucoup. Mon bon ami Régent Tremblay, tu sais, je l'ai déjà écrit, mais Régent, il a été incroyable pour ça. Il m'appelait. Mais tu sais, quelqu'un qui t'appelle pour prendre soin de toi. Tu sais, qui t'appelle pour prendre de tes nouvelles, mais tu sens pas de conseils un peu loufoques, tu sais, des conseils genre, hey, quand t'as envie de jouer, pars à la course. Tu sais, il n'y avait pas de conseils louches, il n'y avait pas aucun jugement. Régent était juste dans la bienveillance et l'écoute. Régent Tremblay, c'est rare qu'on se dise ça entre hommes, mais je t'aime. Et merci pour m'avoir. Juste écouter, juste ça me faisait du bien de parler, ça me faisait du bien de sentir que t'sais, quelqu'un m'encourageait, qui est comme une... Régent, là, c'est rendu quasiment comme une figure paternelle pour moi. Merci. Donc ça va faire 6 mois que j'ai pas joué. On boucle la boucle, j'en parlerai plus jamais. Vous êtes correct à la maison. Podcast, une journée en retard. Mais la semaine passée, je suis allé, mais je pense que... J'en avais parlé. Ouais, ça, j'en avais parlé. Je suis allé au gala Die of the Tiger avec le combat de Steve Claggett. Là, c'est sûr que ça fait 6 jours déjà, mais on va en parler en fond et en comble. On va aussi parler de... Ça, je pense, c'est arrivé quelques heures après que j'aie sorti mon dernier podcast. Makhmoudov va affronter Hagit Kabayel. C'est qui ça, Kabayel? Je vais tout vous raconter ça. Bon, je vais faire tout de suite ma plug. Mercredi à 19h, je vais rencontrer Jade Masson-Wong pour une grande entrevue. Jade Masson-Wong se bat le 14 décembre prochain. Elle a été nommée athlète la plus sexy au monde par le magazine The Sun et disons que tu fais juste publier une photo de Jade Masson-Wong et tu bats tous les records de cotes d'écoute sur une page de boxe. Aussi, je vais vous parler de Diego Pacheco et des implications derrière ce jeune homme. On a appris que Steve Rose allait affronter Steven Butler, mais comptez sur moi pour vous griller de 3-4 petites rumeurs autour. Et je vais peut-être essayer de me magasiner une poursuite avec quelques infos que je vais vous cacher à quelque part dans le podcast sans que personne s'en rende compte. Donc, c'était l'introduction de ton podcast préféré. Le prochain segment est présenté par mes bons amis de Cité en Forme à Trois-Rivières, le plus grand gym de l'histoire de la Mauricie. C'est très simple. Les mêmes gens qui opèrent ce gym de qualité mondiale, c'est les gens de FightNight.co. Tu veux te battre? FightNight.co. Tu t'inscris. Merci aux gens qui se proposent déjà pour sacrer une volée à Siama Kramati. Inscrivez-vous en grand nombre. On va choisir celui qui a l'air le plus dangereux puis on va l'envoyer contre Siamak. FightNight.co sera de retour, je ne sais pas si j'ai le droit d'en parler. Ben oui, en mars 2024. Fait que préparez-vous. C'est simple, OK? On fait un gala de boxe olympique de très haut niveau avec des gens qui sacrifient 4 mois de leur vie pour s'entraîner corps et âme. Et là, ils arrivent. Et on leur fait vivre l'ambiance d'un gala professionnel. Pyrotechnie, écran géant, annonceur maison, lumière, entrevue d'après-match, tout est là. Petit poulet, brie et bacon dans ton assiette, c'est grandiose. Tu as la chance de me voir. FightNight.co, Cité en Forme, le gym. Solide jeu de mots, Cité en Forme, moi j'adore ça. Donc, c'est ça. On en reparlera dans les prochaines semaines. Et aussi, si tu as besoin d'un graphiste professionnel, tu cherches Benjamin Théberge dans mon Facebook. Donc, lui, en tout cas, moi, c'est le meilleur graphiste que j'ai connu en Mauricie. OK? C'est quand même bon, là. Donc, cette semaine, j'étais au show de High of the Tiger Management. Là, je me faufile là. Pour regarder le gala. Je vous ai même fait une entrevue, c'est vrai. Premier combat de la soirée, c'est aussi mon entrevue. Hein. Des fois, il n'y a rien qui arrive pour rien. Moreno Fandero a débattu le pauvre Christian Lopez Lozano et il n'en fallait pas plus pour que je fasse ma seule entrevue de la semaine.
Moreno, première victoire par KO, c'est quoi le feeling?
Je me sens bien, mieux qu'au premier match. Voilà, le camp il était long, il était dur. Donc là, ça a payé.
Est-ce que tu aimes ça, vivre à Montréal?
Il fait froid, je n'ai pas encore habitude.
Attends, il va faire vraiment froid bientôt. Hein.
Il fait froid, je suis prêt pour les moins 30. J'ai pris ma veste, j'ai pris mes bottes. Les gens sont très très bien, j'ai eu la chance de... Je suis avec des gens qui sont très 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 bien, donc oui, pour l'instant, c'est la vie, ça me plaît bien.
T'es prêt à revenir bientôt dans le ring?
Ah oui, je suis prêt. Je vais revenir très très vite.
À quel âge tu te vois faire partie d'un top 15 puis affronter les meilleurs?
Je pense que d'ici 4 ans, je pense que je pourrais... avoir mon sac à dos pour pouvoir être au top du top sans partir trop vite et tout en prenant mon temps et puis voilà.
Bonne chance parce que tu n'as aucune idée comment il va faire froid.
Ça c'est le premier problème ça.
Il est adorable Moreno, il me rappelle tu sais le rappeur dramatique là, mais lui il bégaye dans la vie de tous les jours. Mais donne-y un micro, puis il peut rapper sans aucun bégaiement. C'est comme quand il rappe, il est dans son monde, il n'y a pas d'hésitation, il n'y a pas de bégaiement. Moreno, c'est à peu près le gars le plus charmant. Là. Il est vraiment gentil, il joue des tours aux autres amis, mais il bégaye. Mais il bégaye un petit peu. Fait, mais, c'est tellement pas grave bégayer, genre, mais ça le rend comme archi sympathique. Tu as le goût de le prendre dans tes bras puis le bercer. Puis. Finalement, lui, c'est quand il boxe qu'il n'y a aucune hésitation. Fait que là, moi, mon rêve un jour, c'est que Moreno Fandero rentre sur avec Dramatique qui rapperait en arrière. Puis là, ce serait comme la revanche des Begs. Genre, que un des gars qui rappe le mieux au Québec, c'est un Beg. Puis un des gars qui boxerait le mieux au Québec, ce serait aussi un Beg. Ce serait comme la revanche. En tout cas, c'est dans ma tête là, que j'avais ça. Mais je vous le dis, il est charmant. Là. Il a le potentiel de devenir une super vedette. Et là, il a débattu son adversaire en deux rondes. Mais là, j'ai pas le droit de vous le dire. Ah là, je vais me fâcher. Ben, j'ai le droit, dans le fond. J'ai bien les. Si j'ai des contacts privilégiés avec les gens du casino, ça m'appartient. Eye of the Tiger est réservé le casino le fin janvier, OK? Mais il y aurait aussi. Une date à Québec, puis il y aurait la date à Victoriaville. C'est que Eye of the Tiger, ils ont tellement de boxeurs. Attendez-vous à ce qu'ils se battent assez souvent, merci, dans les prochains mois. Tu sais, le premier trimestre de Eye of the Tiger va être très occupé, mais on en parlera un peu plus tard. Le deuxième combat, ça a été Wilkins Mathieu. Mais là, Wilkins Mathieu, il affrontait un adversaire de 1-0-1. Puis là, tu sais, vous me connaissez. Je dis, ah, esprit de vidange, j'ai encore amené un tout croche. Mais je vous le dis, le gars, je l'avais à 2 pouces de moi. Là. Il était dans une shape exemplaire. Le gars était taillé au couteau. Il n'a pas gagné un round, mais il n'a jamais vraiment été ébranlé. Puis il répondait à Wilkins Mathieu à peu près. Le meilleur combat de développement ou de suivi de carrière que tu pouvais avoir dans l'histoire des adversaires, Grégory Mardzila, qui nous vient de Krakow, vit en Pologne, a fait un super combat. Puis même que tu es à un point tel que je sais pas, moi, tu sais, si tu as un prospect à 168 livres ou. Je ne serais pas gêné de le ramener. Hein. Je dirais, si tu revenais contre Moreno, c'est un Ciron, je ne serais pas gêné de le ramener. Ce gars-là, il est allé pour la guerre puis il méritait son chèque de paye. Après ça, il y a Iman Kataev okay, qui a affronté Fernando Galvan. Galvan, lui, il avait déjà battu, si ma mémoire est bonne, Yann Pellerin. Il avait battu Yann Pellerin. Si ma mémoire est bonne... Il avait perdu un combat serré contre Nick Fantuzzi. Il s'était rendu au troisième contre Dieudonné Wilfred Seyi. Fait une nulle avec Simon Pierrade. Puis il avait été arrêté au deuxième par Lexun Mathieu. Ça, c'est si ma mémoire est bonne. Puis il avait failli jouer un tour au sixième round à Petar Gavrilovic. C'est ça. Ça, c'est de mémoire. Là. Puis là, il s'est fait arrêter au deuxième, mais on a vu que Iman Kataev, c'est ce que j'appelle une brute dangereuse, OK? Et ce que j'aimerais, puis là, ce sera pas évident, mais tu sais, Arthur Beterbiev, à un moment donné, il a eu droit à Tavares Cloud, puis ça a lancé sa carrière. Beterbiev a eu droit après à Gabriel Campillo. C'était 2 anciens champions du monde qui se claquaient comme coup sur coup, genre. Mais j'aimerais ça que Iman Kataev, et là, malheureusement, je ne veux pas donner des noms à Eye of the Tiger, là, mais parce que c'est des gars que j'aime, puis je ne veux pas que personne soit blessé. Mais avez-vous compris où je m'en vais? Ancien champion du monde, 175 livres. Je ne sais pas si Eye of the Tiger m'écoute, je crois que oui. Jean-Pascal Elider Alvarez. Iman Kataev, Mehmet Ounal, Albert Ramirez. Serais-tu game de faire ça si j'étais eux autres? Tu sais, Jean-Pascal a dit qu'il voulait affronter un 200 livres pour tester l'eau. Albert Ramirez est classé à 200 et à 175. Il pourrait tester l'eau à 188,5. Moi, je dis ça de même, tu sais, mais il me semble que pour relancer la vente de billets à Québec, tu me rajoutes... mon ami Jean, mais en même temps, peut-être qu'il va demander la lune, puis il va, comme vous dites en anglais, se out-pricer. Mais c'est une idée comme ça. Iman Kataev, c'est ça. Ben, dans le fond, mon idée, c'est est-ce qu'on va lui trouver un gros nom ou un ancien t'sais, champion du monde. T'sais, je vais donner un exemple loufoque. Le sacré contre Joe Smith. T'sais, est-ce que, je sais pas, moi, sortir Andrés Fonfara de la retraite, est-ce qu'on va trouver un gros nom? Le Tavares Cloud de Iman Kataev qui, on dirait que tu peux pas te tromper avec lui. Mehmet Ünal, lui, c'est complètement l'inverse de Kataev. On dirait que tu t'es trompé avec. Mais c'est une brute. C'est un ancien gars de de kickboxing. C'est un Turc. Il s'est trouvé une femme au Québec. Il est archi sympathique. Fait que là, tu fais comme, ouais. Des fois, c'est bizarre de le voir aller, tu sais, contre Hernan David Pérez il y a 2 mois. Mais là, finalement, il a gagné 3 combats en 60 jours. Là-dessus, il y a 2-2 avant l'arrêt de l'arbitre. Il est sympathique. Il a tout à l'air de bien aller. Fait que moi, si j'étais Eye of the Tiger, là, j'y amènerais un beau petit défi. Puis là, tu sais, je testerais l'eau chaude tout de suite avec. Là. Je testerais tout de suite l'eau chaude avec. Puis ça passe ou ça casse. Tu sais, peut-être. Tu t'éternises pas, mais tu lui donnes la chance de se faire valoir. Mais ça a moins l'air d'un coup de circuit que Iman Kataev pour le moment. Après, dans un combat stressant qui. Ah là, j'ai des affaires à vous raconter. J'ai pas de source, j'ai rien, mais j'ai ma grande intelligence pour vous dire que moi, tout de suite, là, je m'en suis rendu compte, tout de suite, je m'en suis rendu compte. Ben là, je vais vous le dire tantôt, par exemple. Steven Butler affronte Ivan Alvarez. Alvarez, il vient de 1 ou 2 divisions en dessous. Énormément d'expérience, toujours impliqué dans des combats serrés. Après les 4 premières rondes, ça n'a aucun sens. L'arbitre, Yvon Goulet, est en train de perdre le contrôle. Ça se frappe après les breaks, ça se frappe après les rondes. Il faut quasiment amener l'armée et les séparer après le 4e. Ça n'a aucun bon sens. Okay? C'est 2. Moi, après le 4, j'ai 2-2. Là, il y a du monde. Après 4, l'arbitre reprend le contrôle puis la boxe a un peu plus de bon sens. Là, après 8, il y a des gens qui ont 6-2 Butler comme moi. Il y a des gens qui ont 5-3 Butler. Puis du monde de mauvaise foi qui ont 4-4. Okay? Moi, j'ai Butler qui mène. Mais il s'est fait atteindre. Butler, là, il y a quelque chose qui ne marche pas. Il se fait encore atteindre solidement. Okay? C'est comme s'il apprendra jamais à boxer en défensive. Mais là, Butler, là, il a 37 combats professionnels. Il a encore les mains basses. Il a encore show-off. Il n'écoute pas son coin. Puis là, la grave erreur. Je vais vous le dire. Il n'y a personne qui vous l'a dit. Mais je suis là pour ça. Apprenez ici ce que personne veut vous dire ailleurs. Quand il va assommer Ivan Alvarez, il va faire une erreur qui va lui coûter très cher dans sa carrière. Et qui, croyez-moi, j'ai pas d'infos, mais je suis sûr que Camille Estéphane l'a vu aussi. Camille Estéphane, il va s'écœurer de Steven Butler. Pourquoi? Quand il va faire mal à Alvarez, il va aller dans le coin. Faut que tu ailles dans un coin neutre pour que l'arbitre compte. Il s'est fait toucher solidement, il a perdu des rondes. T'as couché ton adversaire, espère que tu vas le finir au juge. Qu'est-ce qu'il fait? Il va dans le coin où ses amis ont une table en bas. Au lieu d'aller dans un coin neutre pour aller compter comme un vrai professionnel, il faut qu'il aille à la table de, je crois qu'il y avait Simon Kane puis d'autres mondes pour aller faire une petite danse puis leur dire qu'il est là. Ça fait un peu débutant. Ça fait gars qui apprend pas. Puis, je pense qu'on en a là, notre claque, OK, chez Eye of the Tiger. C'est pour ça qu'on le parachute dans un combat 50-50, mais ça, ce sera ton prochain sujet. OK? Calme-toi à maison, on va s'y rendre. Fait que ma théorie, c'est que ça a précipité les choses, puis qu'on a fait comme, OK, là, ça passe ou ça casse avec Butler, puis si ça casse, on va tirer à la plug, parce que il a brûlé beaucoup d'entraîneurs, il apprend pas, il est pas capable de boxer défensivement. Tu sais, à un moment donné, il est perdu 4 fois par KO. Ils vont pas le laisser se faire knocker 17 fois là, à Eye of the Tiger avant de couper les liens. En grande finale, Steve le Dragon Claguette affrontait Miguel Madueno. Au premier round, on a clairement vu que Madueno était un vrai boxeur. Mais oubliez ça. Oubliez ça. Claguette a joué avec Madueno. Il se déplaçait tellement pour aller chercher des angles qu'à un moment donné, je fais comme... On n'a pas le droit de dire ça. T'sais, je sais qu'on n'a pas le droit, mais je me disais... Tabarouette, on n'a pas le droit de dire ça, mais... On dirait des fois une version soft de Lomachenko. Il se déplace, va chercher des angles, mais il lance excessivement de coups de poing. Il détruit les poumons de son adversaire. Mais là, c'est impressionnant. Ça fait 8 combats qu'il est avec Mike Moffa. 8 victoires, 7 KO. Là, il passe des gars classés comme Madueno. Attendez-vous à ce que Steve Claguette se ramasse dans un top 5 bientôt d'une division, peut-être la WBO, je ne sais pas, mais il est impressionnant, le Dragon Claguette, et il mérite d'avoir un combat d'envergure en 2023. On va lui souhaiter à tout prix son combat d'envergure. Donc, c'était ma soirée à Eye of the Tiger. Mon prochain sujet, j'ai ça ici. Bon, revenons à Steven Butler, tant qu'à être là. Bon, là, Butler, ben là, j'ai tout dit ce que j'avais à dire. Là, je ne le repasserai pas en dessous de l'autobus. Là, puis, moi, je l'aime bien, puis je veux qu'il réussisse. C'est juste qu'on dirait qu'il n'apprend pas de ses petites erreurs. Là, Butler, ben là, vous le connaissez. Il y a 4 défaites par KO. Okay? Brandon Cook, je vais de mémoire, Ryota Murata, José de Jesus Macias, Zanibek Alim Kanouli. Là, on leur lance. À chaque fois, on leur lance. Puis c'est bien correct, il est jeune. Là, il va affronter Steve Rose. Mais là, là, accrochez-vous à maison. Là. Steve Rose, là, moi, je l'ai favori contre Butler. Là. Vous allez dire, tu fous, poulain. Mais non, je ne suis pas fou. Il est entraîné par un dénommé Bradley, si ma mémoire est bonne. Ex-écho avec un dénommé Samuel Descaries de Rolais. Ça va quand même être drôle de voir Samuel dans un coin puis son cousin dans l'autre coin avec Steven. Mais là, Steve Rose, c'est 22 victoires, 3 défaites. Il a 39 ans, mais c'est un entraîneur privé dans la région de Toronto. Il est en bonne condition physique. Lui, il a 22 victoires, dont 12 par KO. Mais là, attendez. Là. Il a battu Damon Nicholson. Excellent boxeur. Il l'a même envoyé au tapis au premier round. Il a battu Key-Andre Leaderwood. Il a gagné toutes les rondes. Sauf un. Excellent boxeur. Après ça, il s'en va sur Golovkin. Allez voir le deuxième round. Les gens disent, énerve-toi pas que le deuxième round. Ben oui, mais énerve-toi pas. Genre, il swing Golovkin à deux mains, tout va bien. T'sais. C'est lui le premier qui a fait vieillir Golovkin. Après ça, il va battre Christopher Brooker. Mais dans son combat suivant, il va affronter Edgar Berlanga qui est 18-0. Okay? 17 victoires par KO de suite. Après ça, il va en décision. Il gagne par 12 points contre Damon Nicholson. Et là, Berlanga, il en prend pour son rhume. Il se fait frapper. Moi, je pense que je pense que c'était un combat nul. Puis finalement, Berlanga s'en est sorti avec la victoire des juges. Mais moi, j'avais un combat nul. On parle d'un gars, Steve Rose, que je lui donnais un combat nul l'année passée contre Berlanga. Hey, Berlanga, là, c'est top 5 des plus vendeurs à 168. C'est top 10 à 168 facile. C'est quelque chose, Edgar Berlanga. C'était le nouveau Cotto il n'y a pas longtemps. Mais Steve Rose, il avait l'air d'avoir au moins nul contre lui. Combat suivant. Il va affronter Sadi Gamour, boxeur invaincu. Il va le battre pour aller chercher la IBF nord-américaine. Combat suivant, il affronte un des meilleurs prospects aux États-Unis. Certainement, chez les moyens, un des meilleurs prospects. Mais certainement, le meilleur prospect chez les moyens aux États-Unis, Austin Amo-Williams. mais tenez-vous bien, il gagne 3 rondes sur 10. Encore là, il pouvait mériter un meilleur sort. Puis là, on le swing au Colisée des Jardins contre Steven Butler. Hey, parfait combat 50-50. Parfait combat à la croisée des chemins. Eye of the Tiger Management, vous y allez pas avec le dos de la main morte. Vous donnez pas beaucoup de répit à Steven avant d'être tout de suite dans un combat important. Ça vous honore, mais wow. Pas sorti de l'auberge, lui-là. Là. Tu sais, si je sais pas s'il y a une auberge là-bas, moi je vais dormir au Victorin. Ça a l'air chic, une petite piscine. Mais il est vraiment pas sorti de l'auberge. Moi, j'ai un combat où j'ai même Steve Rose largement favori. Non, pas largement. Là. Légèrement favori, je cherchais mon mot. Je n'en reviens pas. Comment vous y allez pas avec le dos de la cuillère de la main morte. Et c'est un combat qui va faire beaucoup de bruit sur la scène canadienne. Dans un autre dossier, Arslan Beck, le lion, Makhmoudov va affronter Agit Kabayel. Et là, je dis, wow! On est depuis longtemps, on trouve que ça ne débloque pas avec Arslan Beck Makhmoudov, mais là, il y a devant lui Agit Kabayel. Un gars qui, si ma mémoire est bonne, a été signé par Top Rank en début de carrière. Je pense qu'il est peut-être même encore là. 23 victoires, 0 défaites, 15 victoires par KO, 24e sur BoxRec. Moi, Kabayel, je le connaissais là, dès ses débuts, tu sais, parce qu'il a fait des camps d'entraînement avec Tyson Fury. Mais où je vais vraiment me rendre compte c'est qui, ok, c'est en 2016. Kabayel va affronter, tenez-vous bien, un adversaire allemand, ok, pour la ceinture de l'Union européenne. Il va affronter Christian Lewandowski. Lewandowski est un assez gros prospect, merci. Et il va le battre au 7e round. Mais là, regardez, il affronte du bon monde. Accrochez-vous après vos souliers. Il va battre Christian Lewandowski. Il va battre Hervé WH Hubo, qu'on a connu contre Oscar Rivas. Il va battre Derek Chisora. Hey, c'est pas... C'est pas de la petite gomme, ça, là. Le Chisora, ça boxe en joie le vert. Là. Il va battre Lewandowski, Hubo et Chisora. Wow. Après ça, il va battre Milan Roscanin, qui était un gars classé, 19-1 à l'époque. Il va battre Andrei Rudenko, qui est la meilleure mâchoire de l'histoire de la boxe. Tu prends une masse, tu frappes Rudenko d'en face, il bougera pas. OK? Rudenko, lui, c'est bien simple. Il bouge jamais. T'sais. Là, c'est un Ukrainien de 40 ans. Il va battre un autre gars qui était un prospect, Evgenios Lazaradis. Il va battre Kevin Kingpin Johnson, qui a 184 ans. Il va battre Pavel Sour en quelques secondes. Puis il va battre Agrons Makichi après être allé au tapis, toutefois. Il y a une fiche... Une très belle fiche pour un poids lourd. C'est pour ça qu'il est 24e au monde. Et là, il va affronter Arslan Beck Makhmoudov. On peut penser qu'il ne sera pas capable de prendre les claques de Makhmoudov. Mais là, on a quand même le 24e au monde pour affronter Makhmoudov, qui, lui, est classé 17e. Okay? Superbe combat pour consolider le rang de Makhmoudov. Puis peut-être même monter dans les autres associations. Je dis... Wow! Sur la même carte, et là, je vais faire un petit détour à l'international, c'est peut-être la plus grosse carte de l'histoire de la boxe professionnelle, incluant une tonne de poids lourds. Tu sais. Il y a 6 combats poids lourds. Accrochez-vous. Là. Philippe Ergovic contre Marc Domory, le culturiste. Frank Sanchez contre Junior Fa. Fa, c'est le dernier gars à avoir battu justement Arslan Beck Makhmoudov. On a Arslan Beck Makhmoudov contre Agit Kabayel, 17 contre 24. On a Daniel Dubois contre Gerald Big Baby Miller, 4 contre 19. On a Deontay Wilder contre Parker, possiblement 3 contre 12, mais là, Wilder est décoté. Puis on a Joshua contre Wallin, 2 contre 5. Voyons. Non, je t'ai plus, la cour est pleine. Ah non, c'est pas assez, vous en voulez encore? On a Dimitri Bivol qui défend son titre contre Lyndon Arthur et Jay Opetaia qui défend son titre contre Ellis Zorro. Voyons. Voyons. Venez chercher l'argent directement dans mon compte dans mon compte chèque. Ça n'a aucun bon sens comment cette carte-là est pactée. Je capote ben raide. Le 23 décembre, si vous pensez que je suis en train de manger de la tourtière d'un party de Noël, je me déclare, je fais croire que j'ai la COVID à ma famille, puis j'écoute le gala de boxe de bord en bord. Mercredi à 19h sur ton site préféré, boxingtownquebec.ca, ne manque pas la grande entrevue avec Jeanne Masson-Wong, l'athlète la plus sexy au monde, selon le magazine The Sun. Chronique, BoxRec, résultat. La chronique que je fais avec le moins d'inspiration, ok? C'est la chronique que je fais parce que je suis obligé. Mais tant qu'à la faire, on va essayer d'avoir du fun. Chronique résultat, Francesco Patera a battu Carlos Sandoval. Pourquoi je vous dis ça? Pourquoi j'ai noté ça? Ça part déjà là. Ça part très mal, ta chronique prédiction. Qu'est-ce qu'on avait samedi? Ce sera pas long, faut que je trouve mes feuilles. C'est drôle parce que je m'étais dit que j'allais bien faire la chronique, puis elle est vraiment partie tout crush. Nick Ball a battu Isaac Dogbo. Le pauvre Dogbo, je pense que c'est fini. Après ça, on a Nathan Iné. Nathan Iné, gros combat que mon ami il appelle ça des combats domestiques, a battu Denzel Bentley. Majority Decision. Ces deux-là, ça s'était un peu envenimé dans la semaine. Faites-moi une revanche, s'il vous plaît. On a vu Liam Davis battre Vincenzo La Femina. Et le combat, ça, c'était la guerre. Mais Nathalien Collins contre Zach Miller, aussi une Majority Decision. Et dans le combat qui m'intéressait le plus, puis je vais même vous faire une prédiction. Anna Rankin a perdu par vraiment un point, là, une split décision de un check bar puis un 96-94 contre Emma Cousin. Emma Cousin devient championne WBC-WBO. Là, je vais vous dire ce qui va arriver. Elle va unifier contre Finke Herman, puis elle va perdre. Herman va la battre. Là, je vais vous dire ce qui va arriver. Mary Spencer va redevenir l'aspirante obligatoire, puis va avoir un troisième combat avec tous les titres en jeu. Entre Mary Spencer et Femke Herman, elle ne s'en sortira jamais, Spencer. Il va falloir qu'elle affronte Femke Herman à peu près à tous les semaines. Okay? Et selon mes sources, Mary Spencer serait de retour en janvier à la boxe. Mais on verra. Là. Il y en a qui disent, il y a des sources qui me disent non, puis il y a des sources qui me disent oui, fait que je suis vraiment un peu mêlé à cause de tout ça. Adam Aziz, qui est comme le plus gros prospect en Angleterre, puis peut-être même dans le monde, a battu Frank Petitjean par KO au 10e round, la même soirée que Tyler Denis a battu Matteo Signami. Et sur cette carte-là, on avait Richard Riak-Poré qui a battu Dalen Brejohn, un Français. T'sais, on était vraiment bombardés de nos amis français sur cette carte-là. Et c'était la carte en Angleterre. Et là, l'autre poste, OK. C'est ça, là. Erika Cruz Hernandez a battu Mayerlin Rivas. OK, ça, je ne sais pas trop c'est qui ces deux-là, mais je vous dis juste qu'il faut que vous écoutiez le podcast 120 secondes pour les connaître. Et Khalid Wafai a perdu contre Jonathan Rodriguez au premier, en partant, bading badang. Mais ce qui m'intéressait le plus, c'est que Diego Pacheco, lui, on est en train de le parachuter chez les 168 pour qu'il aille dépasser. Ben, c'est ça qui est vrai, eux autres, que Pacheco dépasse Mbili et Bazinian. Mais là, ça a bien été. Pacheco a battu Marcelo Caceres au 9e. Il a fait ça plus vite que Billy Joe Saunders et Bazinian. Mais on a vu le grand Pacheco à 6 pieds 4 chez les 168 livres se faire exposer au corps à corps et se faire exposer défensivement. Donc, je crois qu'on va retourner sa planche à dessin pour trouver des bons adversaires. Mais faut pas qu'il se fasse jouer un tour et qu'il perde ce Diego Pacheco-là. Cette semaine, dans la nuit de mardi à mercredi, on a Nikita Tsu, le frère de l'autre, qui fait sa première finale contre Dylan Biggs. Bon, ça va être quand même être... Les frères Zou, hein? Ils finissent par faire beaucoup de bruit parce que ben c'est les fils de l'autre. Ça aide toujours. Au Canada, on a Eric Basran, l'ancien protégé de groupe Yvon Michel pendant un combat, qui va affronter Johan José López Alcaraz à Vancouver. Un adversaire de 3-6-3. C'est rare, je vais dire ça, mais t'aurais quasiment dû rester avec Yvon Michel. Pour mes amis français, on a Messaoud Oubali qui va affronter Sylvain Chapelle et Ségolène Lefebvre contre Taïsi Gallagher. Mais là, la semaine prochaine, il y a un méga gala. Tantôt, je le regardais puis je me disais, coudonc, sont-tu tombés sur la tête? Sais-tu combien qu'ils vont vous demander? 75$ US. Hey, sont-tu fous? On est en pleine récession au Canada, mais l'inflation nous a tapé sur la tête. 75$ US. Je ne sais même pas si il me reste ça moi, dans mes affaires. Pour voir... Demetrius Andrade contre David Benavidez, mais j'avoue que la sous-carte est écœurante. Mais en attendant, je vais rester dans ma bonne chronologie. Dans l'après-midi, sur DAZN, il y a la revanche entre Chantel Cameron et Cathy Taylor. Il y a 5 titres en jeu, pour vous donner une idée, chez les 140 livres. Cameron avait bien dominé le premier combat. Revanche, donc ça, c'est bien intéressant. Il y a Paddy Donovan contre Danny Ball. Et Sky Nicholson va affronter Lucy Wildhurt. Donc, c'est un des gros combats féminins de l'année. Cameron Taylor 2. Et tout ça, ça nous mène à, là, j'en ai comme parlé, mais 75$. Est-ce que j'ai l'air de la banque à Joe Violoncelle? 75$ sur Showtime Pay-Per-View. Mais je vais vous le dire, là, c'est vraiment une carte de qualité. Il y a Jermall Charlot qui va affronter José Benavidez Jr. Jermall ne met pas son titre en jeu. Il y a Hector Luis Garcia qui va affronter Lamon Roach pour le titre WBA World. Il y a Soubriel Mathias, et ça, je vous le dis, ça, ce combat-là, il est étiqueté combat de l'année déjà. Soubriel Mathias contre Sojahan Ergachev. L'Ouzbek, c'est la folie furieuse. Si Ergachev l'emporte, attendez-vous à ce qu'on soit dans la lignée de c'est à lui d'aller affronter Crawford, puis c'est un truc qui peut déranger Crawford. C'est ça que les gens devraient embarquer dans ce Ben Wagon-là s'il gagne. C'est lui, c'est le descendant de Tamerlan, qui est un dieu ouzbek. C'est un gaucher de 5 pieds 10 qui boxe au Crown Gym. 23 victoires, 20 KO. Pourquoi? Les gauchers sont tous au Crown Gym. Comme ça, ils peuvent faire des one-punch knockouts comme Adonis Stevenson. C'est un peu ça, là. Il y a comme... L'entraîneur là-bas, il y a une facilité avec les gauchers. Et en grande finale, parlant gaucher, on a Demetrius Boubou Andrade contre David Benavidez. Ce combat-là, Benavidez prend un risque énorme, mais il veut comme prouver hors de tout doute que c'est à lui d'affronter Canelo. Puis contre Andrade, mais c'est ça qui vient nous prouver. Ça m'appartient, ce combat-là. C'est ça qu'il veut dire. Là. C'est moi le meilleur. C'est ça qu'on peut lire entre les lignes. Donc, David Benavidez qui met un peu comme son poste d'aspirant obligatoire, son poste de Canelo me revient, en jeu contre Demetrius Andrade. 27-0 contre 32-0. C'est à peu près ce que la boxe a de plus beau à t'offrir. T'sais, Andrade, il est technique, il est gaucher, il est calculateur, un peu plate. Benavidez... C'est une brute furieuse et dangereuse. Tu sais, c'est une brute dangereuse et furieuse. Mais très, très beau combat qui a lieu au Michelob Arena pour ceux qui aiment boire leur bière dans une canette effilée. Et là, je n'ai même pas pris de pause. Je respire même pas entre les mots. Quelle machine de podcasteur ici. C'est ta chronique préférée. Les nouvelles de la semaine. Adrien Bruneur est blessé. La carte va quand même avoir lieu. Bruneur, lui, aimerait affronter Rouli Romero, Devin Haney ou Régis Progrès la journée qu'il n'est plus blessé. Bon, ben intéressant. Mais t'es blessé, le tweet. Reste donc chez vous. Fatiguant. 75 piastres US. Je ne sais pas si vous en avez parlé. Là. Taparouette. C'est une affaire. Faut être riche maintenant pour aimer la boxe. 75 piastres US. Tombé sa tête, bien raide. Ryan Garcia aimerait affronter Tank Davis, mais en premier, il se concentre sur son adversaire, Oscar Duarte. Anthony Joshua s'entraîne avec Ben Davis. José Benavidez père aimerait que Terence Crawford batte Canelo et choisisse d'affronter son fils David. On est rendu dans les scénarios fiction où les catégories de poids n'existent plus. Ryan Garcia a déclaré que sur ESPN, c'était ridicule, c'était biaisé comment on a commenté le combat entre Shakur Stevenson et Edwin De Los Santos. De Los Santos a battu un record en landant seulement 40 coups de poing sur 12 rondes et est devenu le gars le moins efficace de l'histoire d'un combat de championnat qui se rend sur 12 rondes. Donc, ben, bravo. Selon Eddie Hearn, il y a trois gars présentement qui battent facilement Canelo. C'est David Benavidez, Demetrius Andrade et David Morel. Bon, ben, merci. Moi, je rajouterais Bivol parce qu'à 168 livres, il peut le faire encore. Qui Jermall Charlo dit qu'il va faire très mal à José Benavidez samedi soir. Shakur Stevenson, son entraîneur a dit qu'il avait l'air de... Shakur avait l'air de Floyd Mayweather, mais un Floyd de 45 ans, qu'ils ont encore des choses à travailler. Beaucoup de rumeurs que Diego Pacheco, ce serait direct contre Edgar Berlanga. Ça, c'est ce qu'on appelle des rumeurs. Pas habitué d'enregistrer le podcast le lundi. On dirait que je suis complètement ailleurs dans ma tête. Sinon, j'aimerais dire bonjour à une partisane au hasard du podcast. Virginie Assali qui nous écoute religieusement. Présentement, c'est la fin du podcast. Donc, elle finit son 10 km qu'elle court en moins de 50 minutes. Et c'était pas mal ton podcast préféré, là. Dimitri Bivol continue à dire qu'il a les yeux sur Arthur Beterbiev pour unifier tous les ceintures. Jaron Ennis, là, tenez-vous bien, je vais faire un petit scoop. Je suis en train d'écrire une chronique qui s'appelle « Mes 10 prédictions pour la boxe québécoise en 2024 ». Puis ma prédiction numéro 4, c'est que Camille Estéphane va acheter le contrat de Jaron Ennis. Mais on verra, là, c'est comme un vœu pieux, là. Puis là, j'avais même Jaron Ennis qui déménageait dans Unstick, là, pour aller s'entraîner au gym de Marc Ramsey. Dans ma tête, il y a des scénarios assez rigolos, merci. Merci d'avoir été là, je vous aime tous profondément. Et toi, Martine Valère-Bisson, je t'aime d'amour. Bienvenue sur le nouveau podcast Boxe et Crime. Dans les derniers temps, j'ai écouté énormément de true crime, surtout à propos de crimes qui ont lieu ici au Québec. Parfois, dans le monde de la boxe, on a, nous aussi, nos
voyous
et même nos
criminels.
Pour trouver mes sources, c'est sûr que je me suis fié à plusieurs
médias d'information.
Donc, voici ton nouveau podcast Crime et Boxe. Portant sur les pires criminels du monde de la boxe.
Alors, je déteste ça.
Claude, donne-moi une chance, j'ai même pas enregistré le premier épisode.
Je trouve ça désagréable.
Claude, essaie donc de l'écouter au moins une fois.
Ça m'intéresse pas.